Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où l'on va voir ensemble quelques règles importantes sur la calligraphie du Coran. Donc auparavant sur cette chaîne, on a fait plusieurs séries de vidéos pour apprendre à lire. On en a fait des concises en 4 cours, des moyennes en 10 cours et également des séries plus longues en 29 cours. De sorte à ce que chacun puisse choisir la méthodologie qui lui convient et avec laquelle il se sent le plus à l'aise pour apprendre à lire l'arabe. Maintenant, il faut savoir que une fois que l'élève a appris à lire l'arabe et qu'il se retrouve donc en face du Coran, il peut se retrouver face à certaines choses nouvelles qui sont spécifiques à la calligraphie du Coran. Et ça va être donc le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Donc, pour cela, on va s'aider d'un support fait par un frère qui s'appelle Bastien, ou bien Yassine Ibn Adam. C'est un support qui m'a été partagé, que j'ai regardé et que j'ai trouvé très profitable. Donc, on va se baser sur ce support, afin également de répondre à sa demande, comme il cite à la fin du support, je cite, « Ma seule demande que j'ai envers toi est que tu partages le plus possible ce travail, afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi une fois dans ma tombe. » Telle la parole de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans trois choses, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. » De la part de votre frère en Allah, Bastien, Yassine ibn Adam. Fin de citation. Donc, comment va se dérouler ce cours? On va lire ensemble ce PDF que vous pourrez télécharger dans le lien dans la description de la vidéo, en bas. On va le lire ensemble, il est très bien expliqué, et on va également donc annoter là où il y a besoin d'annoter. Donc, bismillahirrahmanirrahim, tout comprendre sur la calligraphie du Coran. Introduction, ce modeste travail a été fait dans le but de satisfaire notre Seigneur, Allah, Azza wa Jal, avec comme objectif d'aider tout débutant dans la lecture de l'arabe et du Coran à comprendre une calligraphie spécifique au Coran. Il s'agit de passages pris dans le Mushaf Tajwid, présenté ci-dessous, et commenté de façon concise afin d'être le plus clair possible. S'efforcer de lire le Coran, malgré des difficultés, est la meilleure des choses et tu ne dois jamais abandonner cette quête noble. Le chemin sera long, mais les fruits seront délicieux. En espérant que ce PDF aura pu te soulager d'une épine dans ce magnifique voyage avec le Coran. Partage cet effort afin que d'autres frères et sœurs puissent, comme toi, comprendre et lire un peu mieux, par la grâce d'Allah, la calligraphie du Coran. Votre frère en Allah, Bastien, Yassine ibn Adam. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges, scribes, purs et nobles. Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura deux récompenses, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Donc, premièrement, on voit sur l'image de gauche, entouré en rouge, donc, un élif avec une petite soukoune au-dessus. Ceci est un élif de grammaire, ne concernant que les verbes au passé à la troisième personne du pluriel. On ne le prononce donc pas. Donc, on fait comme si il n'était pas là. Et le signe, c'est que il est précédé d'un « waouh », d'accord, qui sert, lui, à allonger. Ensuite, deuxièmement, on va également trouver parfois un élif avec une sorte de boucle fermée et un peu aplatie, et ça, il s'agit d'une hamza wasl, hamza de liaison. En milieu de mot ou de phrase, on ne le prononce pas, d'accord? Donc on fait comme s'il n'était pas là. Donc ici, là où c'est entouré, comment on va lire? On va dire fattaqou, fattaqou. Donc on fait la liaison entre le fa et le ta directement. Donc ensuite, lorsqu'on va s'arrêter sur un mot qui a deux fathas, fathatayn, ou bien tenwin bil fatha. Lorsqu'on va s'arrêter dessus, comme dans l'exemple à gauche, kathiran, si on s'arrête sur ce mot-là, dans le Coran, lorsqu'on s'arrête sur un fathatayn, on prononce un elif de temps. Ce temps de prolongation s'appelle al-iwad. Donc on dira kathira, kathira. On ne dit pas kathiran. D'accord? On ne prononce pas tenwin si on s'arrête sur ce mot-là. Mais plutôt, on va prononcer une fatha qu'on va allonger. Kathira. Ensuite, on retrouve dans le Coran cette petite virgule qui est entourée ici en rouge. Cette petite virgule, Ce petit accent est en réalité un elif, donc il faut prolonger deux temps. Cela est la calligraphie du Coran. Dans un texte arabe, cela aurait été écrit Khalidoun, Khalidoun. D'accord ? Ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Cette petite virgule, ce petit accent vers le haut, ça sert à allonger deux temps. Ensuite, dans le mot ici entouré, ala, on voit que ce y est sans point, c'est un elif, appelé elif maqsoura. Il se prononce comme elif normal, soit deux temps. Donc ici, on lira ala, ala, on allonge deux temps. C'est juste son écriture qui est différente. Ici, elle s'écrit, ce elif-là s'écrit comme un yé sans les deux petits points. Et on verra dans la suite du PDF que parfois le yé peut s'écrire de la même manière sans les deux petits points, d'accord ? Mais comment distinguer l'un et l'autre ? Simplement en regardant la lettre précédente. La lettre précédente, si elle a une fatha, alors ce yé sans les deux petits points, on dit que c'est un elif maqsoura. Si la lettre précédente, elle a une kasra, alors ce yé sans les deux petits points, comme on va le voir par la suite, on dit que c'est un yé. Juste, les deux petits points ont été effacés, tout simplement. Et ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Alors, ensuite, dans le milieu de l'image, donc c'est entouré, fi, ha, cette lettre est en fait un ha. C'est juste la calligraphie qui la différencie. Le mot est donc fi, ha, d'accord ? Parce qu'on peut se demander quelle est cette lettre ici au milieu, d'accord ? C'est un ha en milieu de mot, et cette calligraphie, donc, on la retrouve dans le Coran. Ensuite, on voit parfois, donc, après certains mots, un tout petit waouh, comme ça, il est entouré en rouge. Ce petit waouh est un temps de prolongation appelé sila sughra. Du coup, on prononce deux temps le ha, tel que innahu, innahu. D'accord ? On allonge deux temps. On ne dit pas innahu huwa. Non, on dit innahu huwa. D'accord ? On allonge deux temps le hu, le premier, vu qu'il y a le petit waouh. Et dans le même cas, pour allonger le son i, des fois on va voir ce petit signe ici entouré en rouge qui représente un yé. Et il se lira donc deux temps, tel que yuhyi, yuhyi. D'accord ? Ce petit signe ici, c'est comme un yé qui allonge deux temps. Donc on dira huwa yuhyi wa yumit. Donc maintenant, on va voir ce qu'on avait dit juste auparavant. Le yé sans point ici est en fait un yé normal. Cette absence de point est une calligraphie du Coran. On ne peut pas confondre ce yé avec un elif maqsoura, car avant lui, il y a la lettre T avec la kasra. Donc c'est ce qu'on avait dit auparavant. On regarde la voyelle de la lettre précédente. Si c'est une kasra, du coup, ce sera un yé. Si c'est une fatha, du coup, ce sera elif maqsoura, tout simplement. Et dans les deux cas, donc, on allonge la voyelle précédente deux temps. Alors, ensuite, ici, on voit la calligraphie de la lettre Jim, Ha, Kha, ici entourée en rouge, c'est la lettre en bleu. D'accord ? Medjenoun, Medjenoun. Donc, cette calligraphie est la seule qui change vraiment dans le Coran. Lorsque la deuxième lettre d'un mot est un Jim, Ha ou Kha, ce mot-là est Medjenoun, commençant ainsi par le Mim tout en haut. Alors ensuite, sur cette image, on voit que parfois dans le Coran, le T, les deux points peuvent s'écrire l'un sur l'autre et non pas l'un à côté de l'autre. Donc là, il s'agit tout simplement de la lettre T. Il arrive que par style calligraphique, ces deux points soient verticaux. Ici, dans cette image, donc entourée en rouge, on lit ilayya. On voit, cette fois-ci pour le yé sans point, on voit qu'il possède une shadda et une fatha. Du coup, on comprend bien qu'il faut prononcer le mot tel que ilayya, ilayya. Car on avait dit précédemment que lorsque c'est le yé sans les deux petits points, on regarde la lettre d'avant. Si c'est une kasra, alors c'est un yé. Si c'est une fatha, comme ici, alors c'est un elif maqsoura, elif pour allonger. Cependant, ici c'est une exception. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le yé sans les deux petits points, il a une shadda et une fatha. Du coup, pour pouvoir prononcer ceci, ça peut être prononçable que si c'est un yé, et non pas si c'est un elif maqsoura. Donc là, on a un autre exemple pour la calligraphie du yé sans point, qui est un yé voyelle longue. Le nun avant lui possède une kasra, du coup forcément, ce yé sera un prolongement de deux temps, tel que inni, inni. Et cette fois-ci, le petit waou, après un hé qui possède une vague, est un temps de prolongation, mais de 4 ou 5 temps, appelé sila kubra. Donc ici, on ne dira pas rabbahu, ni rabbahu, mais plutôt rabbahu. D'accord ? On allonge 4 ou 5 temps, vu qu'il y a le petit waou avec la vague au-dessus. Et note la différence entre la sila sughra et la sila kubra, et que après sila kubra, il y a toujours une hamza. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique, toujours bon à savoir. Ensuite, comme pour la lettre T, le yé peut également avoir ses points de façon verticale, comme ici. Lem yatoubou, lem yatoubou. On voit que le yé, ces deux petits points, sont de manière verticale. Sur cette image, on voit une autre calligraphie de la lettre H, qui est présente dans certains mots, tels que, ici donc, walahum, walahum. Le hé, on voit une nouvelle calligraphie qu'on retrouve donc dans la calligraphie du Coran. Parfois, le mim est écrit de façon assez discrète, comme là par exemple dans le mot wassama'i. On voit que le mim qui est après le sin et avant le elif qui est écrit en rose, c'est la petite virgule. Donc cette manière d'écrire un peu discrète, on la retrouve souvent dans le Coran. Et c'est la lettre Mim. Un autre exemple avec Al-Mu'minun, écrit de cette manière-là, de manière assez discrète. Un autre exemple ici, avec le mot Al-Majid. Et encore un autre exemple, Lamma, Lamma. On voit ici, en vert, on remarque le petit Mim. Alors, maintenant qu'on a vu ceci, lorsque la lettre Lem a une Hamza avec un support comme Elif, il faut bien faire attention à l'emplacement de la Hamza, car il y a deux possibilités. Soit la Hamza est au milieu, donc comme dans ce cas-là, entre le Lem et le Elif. Dans ce cas, on lira la Hamza deux temps, tel que Wal-Akhiratu, Wal-Akhiratu. La deuxième possibilité, c'est lorsque la hamza est sur la pointe du elif. Et du coup, on la prononcera normalement. Al-akram, al-akram, sans allonger d'autant. Car ici, la hamza, elle est sur la pointe du elif et non pas entre le lem et le elif. Alors ensuite, ici, on a la calligraphie du elif wal lem sur certains mots qui est écrit de cette manière-là, entouré en rouge, le elif et le lem. Donc ici, c'est écrit « El-Junoudi ». El-Junoudi. Et juste ici, une petite annotation. El-Junoudi, le elif ou lem, sur le elif, il y a comme une petite boucle aplatie. Ici, c'est pas une fatha. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle « Hamzatu wasl », comme on a vu juste avant. En fait, c'est pour faire la liaison avec le mot d'avant. C'est-à-dire que si j'aurais lu le mot d'avant avec ce mot-là, on n'aurait pas lu ce elif-là. On aurait directement fait la liaison entre le « sa » ici, du mot précédent, « hadithu », avec le « lem », d'accord, du mot « el-junoudi ». Et on aurait dit « hadithul junoudi », d'accord. Mais par contre, si je lis mot par mot, d'accord, au début, si je lis doucement, je lis mot par mot, je dis « hadithu el-junoudi ». Donc ça, c'était juste pour la petite précision. Ici, à gauche, on a une autre calligraphie de la lettre Mim, telle que, dans ce mot, mardiyya, mardiyya. Ensuite, on avait vu précédemment que lorsque l'on s'arrête sur un mot qui a fathatayn, on prononce le elif deux temps, al-iwad. Exception faite sur un mot qui a la lettre de tamarbuta, donc le petit ha avec les deux petits points, car lorsqu'on le s'arrête sur un tamarbuta, il devient un ha. Tel que ici, quand on va s'arrêter dessus, on va dire Hamiya, Hamiya. D'accord ? On va effacer les deux fatha et les deux petits points et on va remplacer tout ça par une sukun. C'est l'exception lorsque on s'arrête sur Tenwin bil fatha. Sinon, en dehors de ça, comme on avait vu précédemment, on n'efface que une seule fatha et on allonge deux temps le son est. Alors, ensuite, on va voir maintenant des petits signes présents dans le Coran. Cette petite étoile, c'est ce qu'on appelle un ruba. C'est l'équivalent d'un quart de hizb, soit 2,5 pages. Pour rappel, un hizb, donc c'est un terme hein, à apprendre, un hizb c'est quoi? C'est 10 pages. Et un juz, c'est 20 pages. Donc, un juz, c'est 2 hizb. Et le Coran, il a 60 hizb, soit 30 juz. Donc, pour faire simple, on a 30 juz. Un juz, c'est 20 pages. D'accord? Donc, 600 pages. Un juz, c'est 20 pages. La moitié d'un juz, 10 pages, c'est ce qu'on appelle un hizb. Et un hizb, on peut le diviser en 4. Quand on divise en 4, ça s'appelle des ruba. Et chaque ruba est délimité par cette petite étoile-là. Ensuite, on peut retrouver ce symbole de prosternation 15 fois dans le Coran. Cela indique qu'il faut se prosterner. Le trait, quant à lui, indique ce pourquoi on se prosterne. Donc, on a le petit symbole ici à la fin du verset pour indiquer que c'est un verset de prosternation. Et le petit trait au-dessus du mot, d'accord? Et non pas en dessous, mais au-dessus, il indique ce pourquoi on se prosterne. Ensuite, ce elif maqsura peut également être un support pour le fathatayn. Du coup, on le lira normalement, tel que ruden, ruden. Ce petit mime est un des six signes d'arrêt dans le Coran. Ce petit mime, yasma'un, on a un petit mime au-dessus, ce signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter. Arrêt obligatoire. Et ce petit signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter, mais attention, d'un arrêt silencieux sans reprise de souffle. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on ne reprend pas son souffle, comme le mime précédemment. Le signe ici, on s'arrête obligatoirement et ensuite on reprend la lecture sans avoir repris de souffle. Ensuite, ce petit qaf indique qu'il est préférable de s'arrêter, mais qu'il est permis de continuer la lecture. On peut s'arrêter, inda rabbihim, et ensuite continuer le verset, mais on a droit de continuer le verset sans s'arrêter sur rabbihim. Et ce petit jim indique qu'il est autorisé de s'arrêter. Donc ce n'est pas préférable, c'est autorisé de s'arrêter ou bien de continuer la lecture. Les deux cas sont équivalents. Ce petit sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture. D'accord? À l'inverse du qaf. Ici, le sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, mais que l'arrêt est permis. Bien sûr, tous ces signes-là qu'on voit, c'est vraiment spécifique au Coran. C'est la calligraphie du Coran. D'accord? Le petit qaf au-dessus, le petit mim, le petit sad, tout ça, on ne le retrouve pas dans autre que le Coran. Dans le Coran, ça a une calligraphie bien particulière, spécifique à lui. Du coup, on a ces signes-là, d'arrêt ou non, préférable, autorisé, obligatoire ou bien interdit. Comme ce petit lem elif indique qu'il est obligatoire de continuer la lecture et interdit de s'arrêter. On peut se demander pourquoi ces signes ont été mis, à quoi servent-ils, pour comprendre pourquoi des fois il est obligatoire de s'arrêter et pourquoi des fois il est obligatoire de continuer, faut revenir tout simplement à l'exégèse du Coran, l'explication du Coran, car parfois, lorsqu'on va continuer le verset alors qu'il était obligatoire de s'arrêter ici, ça peut changer le sens du verset, et vice-versa, si on continue au lieu de s'arrêter ou si on s'arrête au lieu de continuer. Et enfin, on a un dernier signe, c'est ces trois petits points se trouvant par paire, donc qui viennent tout le temps par deux, trois petits points, indique que l'arrêt est possible à l'un des deux groupes de points au choix, mais pas les deux. On peut s'arrêter soit à l'un, soit à l'autre, mais pas aux deux. D'accord? On ne s'arrête pas aux deux. On s'arrête soit à l'un ou soit à l'autre. Donc ici, on dira soit la raïb, fihi, etc., etc. Ou bien, on dira la raïba fihi. Et ensuite, on continue. Ici, on retrouve donc la calligraphie du mime qu'on avait vu précédemment, on le retrouve avec ce mot-là, rahima. D'accord? Donc, un petit rappel. Ici, tanwin bil fatha, On s'arrête, donc on efface une fatha et on allonge de temps, on dit Rahima, Rahima. On avait vu que ce petit signe représente un yé, sauf que cette fois-ci, il se lira 4 ou 5 temps. Pourquoi ? Car au-dessus, il y a la vague. D'accord ? Comme on avait vu avec le waouh, quand il est tout seul, 2 temps. Quand il y a la vague, 4 ou 5 temps. Pareil ici, ce petit yé pour allonger le son i, 2 temps. S'il y a la vague, 4 ou 5 temps. On dira Dunihi ilaha. Donc ici, on a l'allongement, la règle qu'on vient juste de voir. Il est, on a la petite virgule vers le haut, d'accord ? Allongé 2 temps. Et ha, on allonge également 2 temps. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête ici. Du coup, on efface une fatha et on allonge 2 temps. Et on retrouve donc juste au-dessus le sad qu'on vient juste de voir. Ce sad-là qui signifiait, pour rappel, qu'il est préférable de continuer la lecture, mais qu'il est autorisé donc de s'arrêter ici. Juste en dessous, pareil, min dunihi aliha. Enfin, la calligraphie de la lettre lem, dans certains mots, tels que ici dans qala, d'accord, peut être écrit de cette manière-là, il ne faut pas être surpris. Ensuite, dans ces deux cas, on ne prononcera pas le waouh, tel que dans au-dessus, al-hayati, ou bien as-salata. D'accord ? Dans autre que le Coran, dans l'écriture hors coranique, l'allongement aurait été fait avec un elif, comme écrit à droite. Mais dans le Coran, ces deux mots ont été allongés avec un waouh. Et ce waouh-là, on ne le prononce pas, tout simplement. D'accord ? On ne le prononce pas. On allonge comme si c'était un elif dans hors l'écriture coranique. Alors, ensuite, on a ce petit mime que l'on peut retrouver au-dessus du noun, d'accord ? Ayant un soukoun et étant suivi de la lettre B. Donc ça, c'est des signes. Ce petit mime, à pas confondre avec l'autre mime qui était écrit avec la barre beaucoup plus penchée vers la gauche. Ici, donc, la barre du mime, elle est vraiment verticale. Ce petit mime, quand il est suivi de la lettre B, signifie que l'on va transformer le noun en mime, le tout en appliquant le nasillement, tel que mimbardi. D'accord ? Il s'agit d'une règle de tajwid se nommant el-qalb, la substitution. Et ça, on le voit en détail donc dans l'étude de tajwid. Donc, pour faire très simple, lorsqu'on voit ce mime au-dessus d'un noun, du coup, le noun, on ne le prononce pas. On va prononcer à la place un mime, mais qu'on va prononcer d'une manière différente, en appliquant ce qu'on appelle le nasillement et ne fermant pas les lèvres complètement. On ne ferme pas complètement les lèvres. Mais ça, on le voit en détail, de toute façon, dans les règles de tajwid. Même cas possible pour le tanwin, tel que l'on prononcera ici, donc, hikmatun balira. Hikmatun balira. Donc, on arrive à la fin des règles. Pour faire ici la liaison d'un tanwin avec une lettre ayant une shadda, ça arrive souvent dans le Coran, on ajoutera une kasra au tanwin, tel que l'on prononcera, donc ici, shay'an, et ensuite, ittakhadha. Pour faire la liaison entre ces deux mots, on dira shay'an ittakhadha, shay'an ittakhadha, comme c'est écrit donc à droite. Car qu'est-ce que c'est en soi le tanwin ? C'est le dédoublement de la voyelle. A, N, I, IN, ou UN. On voit que ça finit par la lettre NUN, dans la prononciation bien sûr, pas dans l'écriture, dans la prononciation. Donc ici, si on veut faire la liaison, eh ben, le NUN sur lequel on s'arrête, le NUN du tanwin, du coup il lui faut mettre une voyelle pour faire la liaison avec le mot suivant, qui commence par une shadda. Et qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce cas-là ? On met la kasra. Et on dit « shay'an ittakhadha ». Comment c'est écrit à droite ? C'est comment on le prononce, pas comment on l'écrit. Comment on le prononce ? Alors ensuite, ici, on a les deux calligraphies du « dammatayn ». D'accord ?« Azabun », on peut l'écrire de cette manière-là, les deux tanwin. Et « azabun », le même mot, mais on voit donc une autre calligraphie de « tanwin bid damma ». Et pourquoi parfois on l'écrit de cette manière ? Et pourquoi parfois, il sera écrit d'une autre manière. Ça, on le voit en détail dans l'étude des règles de tajwid. Donc avec ceci, on a fini, alhamdulillah, la lecture de cette épître. On va lire ensemble la conclusion de l'auteur de cette épître. Donc, conclusion, louange à Allah qui a facilité ce travail afin qu'il soit utile au plus grand nombre, en espérant que tu as pu comprendre et découvrir de nouvelles notions dans l'approche de la lecture du Coran par le biais de ce PDF. Ma seule demande que j'ai envers toi est que tu partages le plus possible ce travail afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi, une fois dans ma tombe, telle la parole de notre bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. De la part de votre frère en Allah, Bastien, Yassine, Ibn Adam, je compte sur vous pour partager la science. » Donc, pour conclure, qu'Allah Azzawajal soit satisfait de son serviteur Yassine Ibn Adam pour son travail effectué pour faciliter la compréhension de la calligraphie du Coran, qu'il accepte cette œuvre de lui et qu'il fasse qu'elle soit une science utile laissée derrière lui qui, une fois dans sa tombe, lui sera profitable jusqu'au jour du jugement, Inch'Allah. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été profitable. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo ce PDF, le partager également, ainsi que partager cette vidéo d'explication concise et annotation concise à ce PDF-là. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos.